Joie de vie femme vous présente un cours de Hannah Hassan.
Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue l'étude du jardin de la foi. Et là, Laura va nous rapporter plusieurs midrashim, plusieurs histoires, pour nous montrer que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Déjà, il nous parle de quand il y a un homme qui a tué une autre personne involontairement. La Torah, elle utilise le terme d'accident. Comme si que voilà, il y a eu un accident et cet homme-là, il a tué involontairement son prochain. Et ensuite, après, elle dit Vachem Zimenlo. C'est-à-dire qu'Hachem, il a occasionné cet accident. Alors, on ne comprend pas, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est voulu par Hachem? En réalité, c'est que Hachem, il a fait exprès que cet homme-là, il tue involontairement son prochain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux hommes. Il y a un homme qui a tué involontairement sans que personne ne s'en aperçoive. Donc, comme il n'y a pas deux témoins valables, il ne peut pas être puni d'exil et d'aller dans les Harim Miklat, ces villes de refuge. Et il y a une autre personne qui a tué volontairement et qui, pareil, n'a pas eu deux témoins pour témoigner qu'elle a tué volontairement. Et donc, il n'a pas été puni, d'après le tribunal terrestre. Et donc, il faut réparer ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait que celui qui a tué volontairement, il passe sous une échelle sur laquelle se trouve celui qui a tué involontairement et il tombe de l'échelle. Et donc, du coup, celui qui était sous l'échelle, qui a tué volontairement, meurt. Et celui qui était au-dessus de l'échelle, il tue involontairement. Et là, il y a deux témoins. Et donc, du coup, celui qui a tué involontairement, eh ben, il va aller dans les Harim Miklat, dans les villes de refuge. Et donc, il va être puni pour le premier meurtre qu'il avait fait involontairement. Et celui qui avait tué volontairement, il meurt et donc il est puni pour pour sa faute qu'il a tué volontairement. Et donc en fait, on voit que Hachem, il a réparé le préjudice. Maintenant, il y a un autre midrash qui raconte que Moshe Rabbeinu, il voulait connaître les chemins d'Hachem. Et donc il a dit, montre-moi tes chemins. Et Hachem, il lui a montré une situation. Il lui a montré qu'il y a un homme qui va à une source d'eau et qui boit, et en se penchant, il perd son porte-monnaie. Il s'en va, il y a un deuxième homme qui arrive pour boire de l'eau, il trouve le porte-monnaie, il est tout content, il s'en va. Et il y a un troisième homme qui arrive, qui va pour boire de l'eau. Le premier homme vient, il lui dit, tu m'as volé mon portefeuille, il lui dit, pas du tout, j'ai pas touché. Et il le tue. Et voilà, l'histoire, elle s'arrête là. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il dit, mais Hachem, c'est ça ton chemin? Il lui dit, tout ce que tu vois là, c'est Emet. Pourquoi? Parce que le deuxième homme qui a pris le porte-monnaie du premier homme, en fait, le premier homme lui avait volé de l'argent. Alors peut-être dans un guilgoul précédent, je ne sais pas, le premier homme lui avait volé de l'argent. Et donc cet homme-là, il vient récupérer son dû. Le troisième homme, il avait tué le père du premier homme, sans que le premier homme le sache. Et donc le premier homme, il va tuer le troisième homme pour venger le sang de son père. Donc tout ce qu'en fait Hachem il avait occasionné, on a l'impression que tout est injuste, quoi, c'est le troisième homme qui se fait tuer alors qu'il n'a rien fait. En fait si, il avait fait, alors je pense que ça doit être peut-être dans une précédente réincarnation, je sais pas, c'est à développer, c'est pas expliqué précisément dans le livre. Et dans notre vie, on a des situations comme ça qui nous semblent injustes, qui sont incompréhensibles. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas la vision entière de la chose. On ne connaît pas nos guilgoulim précédents. On ne connaît pas toutes les choses que nous avons à réparer. Et même des fois, on fait des fautes et on ne sait même pas que c'est une faute. Soit parce qu'on ne connaît pas la halakha, soit parce qu'en fait, on s'est habitué à faire cette faute. Et donc, pour nous, elle est devenue permise. Et donc, du coup, cette faute-là, il faut l'éviter. Et donc, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est juste. Et maintenant, nous, pourquoi on ne comprend pas? Parce que on n'a pas la vision entière. Comme une personne qui arrive au milieu d'une pièce de théâtre et qui voit un homme qui frappe une femme. Et dit, quoi, t'es un rachat et tout. Et les autres, ils disent, chut, t'as raté le début de la pièce. T'as pas vu ce qu'elle lui a fait. Si tu avais vu ce qu'elle a fait, tu te dirais que ça, c'est même pas un centième de ce qui lui revient. Et donc, dans notre vie, on a des personnes qui vivent une longue vie avec beaucoup de bonnes choses. Et il y a des gens qui vivent, qui partent jeunes de ce monde. Et parfois, il y a des gens qui vivent très peu de temps et leur entourage, il va témoigner que ces gens-là, c'était des gens qui avaient très peu de Yetzirara. Il y a un très petit Yetzirara qui étaient des gens exceptionnels. Et la preuve qu'ils sont décédés si tôt, enfin, ils sont décédés si tôt pour réparer, parce qu'ils ont terminé leur réparation. Et la preuve, c'est qu'en fait, nous, il faut savoir que là où c'est le plus dur pour nous, là où on a le plus grand etc., c'est pour ça qu'on est venu dans cette ère pour réparer cette Avera-là. Maintenant, si ces gens-là, ils avaient très peu d'Yetzirah, ça veut dire qu'ils avaient très peu de choses à réparer. Ils ont réparé très rapidement ce qu'ils avaient à réparer. Et donc, du coup, ils peuvent quitter ce monde. Maintenant, il rapporte un autre Midrash avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, il était. Donc, il a perdu ses deux fils un Shabbat. Et sa femme, Broria, qui était une tzadéket, elle ne voulait pas que son mari s'attriste le Shabbat. Donc, elle a pris les corps des deux fils et elle les a montés. Et donc, son mari, bah, Rabbi Meir, il passe Shabbat tranquillement. Et puis, arrive le moment de l'Avdala. Avant de faire l'Avdala, il demande à sa femme, il dit, mais ils sont où nos deux fils? Et elle lui a répondu de façon évasive. Une fois qu'il a terminé Melavé Malka, la mitzvah de Melavé Malka, donc le quatrième repas, elle lui pose la question, elle dit, mon maître, si maintenant quelqu'un il m'a donné quelque chose en gage et qu'il vient de me le, enfin, il m'a prêté quelque chose et maintenant il vient le récupérer, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, mais ma fille, tu dois lui rendre. Alors elle le prend par la main et elle monte en haut pour lui montrer les corps de ses deux fils. Là, Rabbi Meir, il commence à pleurer et sa femme Broré, elle lui dit, mais mon maître, tu m'as dit que si quelqu'un m'avait prêté quelque chose, je dois lui rendre. Alors voilà, Hachem, il nous a prêté ses deux enfants. Et maintenant, il est venu le temps qu'il les récupère. Alors, on n'a pas à pleurer. Alors c'est là qu'il a dit, Hachem Natar, Hachem Natan, Hachem Lakar, Yishem Hachem Mevorach. Hachem, il a donné. Hachem, il a pris. Il ratonne que son nom soit béni. Et donc, on voit que de ces midrashim-là, ou bien tous ces gens-là, ils ont compris que tout ce qu'Hachem faisait, c'était pour le bien. Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan, il allait consoler les endeuillés avec la dent de son dixième fils qui était mort. Et les gens, ils le voyaient joyeux de cette épreuve-là, alors qu'il a perdu 10 enfants. C'est pas qu'il a perdu un enfant, il a perdu 10 enfants. Il allait consoler les endeuillés. Donc les gens, ils étaient bien sûr consolés parce qu'ils se disaient, ouais, regarde lui, sa situation elle est bien pire que la mienne, et pourtant il est joyeux. Et pourquoi il était joyeux? Parce qu'il savait que ses enfants avaient accompli leur mission et que maintenant ils étaient en train de profiter dans le monde qui est uniquement bon, alors que nous on est encore dans ce monde plein de souffrances. Et on voit que plein de tzadikim ont connu des épreuves comme ça. Rabbi Nachman, il a perdu la femme de sa jeunesse et il a perdu ses deux fils. Et il est mort à 38 ans. Et pourtant, il a pas pensé de mal d'Hachem. Et maintenant, nous, quand on voit quelqu'un qui meurt jeune, alors on est complètement retourné. Et quand on voit quelqu'un qui meurt vieux, on se dit, bon, c'est normal. Mais le Rav, il me dit, ça doit être l'inverse. Parce que quelqu'un qui meurt jeune, c'est quelque chose d'assez rare. Mais les gens qui meurent vieux, tout le monde va mourir. Donc, comme on sait qu'on va tous mourir, ça doit nous réveiller et nous dire, il faut pas que je m'endorme, il faut que je me réveille et que j'accomplisse ma mission sur Terre. Et parfois, il y a des hommes, il y a des personnes qui se renforcent dans la Torah et d'un coup, il leur arrive des épreuves et des difficultés. Et les gens, ils disent, quoi? Je me renforce dans la Torah, je commence à faire Shabbat et regarde ce qui m'arrive. Et moi, d'ailleurs, je me rappelle, il y avait un magasin comme ça qui n'était pas du tout Shomer Shabbat. Il ouvrait, c'était un juif, il ouvrait le Shabbat. Il a commencé à fermer le Shabbat, à devenir kasher. Enfin, c'était un restaurant. Il a commencé à fermer le Shabbat, à devenir kasher, à avoir une théouda de kashrout. Très peu de temps et après, il a fermé. Et alors, on se dit quoi? Attends, je fais la volonté d'Hachem. C'est ça le Zotora Vesosrara, c'est ça la récompense. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monde-ci, c'est pas le monde final. C'est pas ce but. Ce monde-ci, c'est pas le but. Le monde futur, c'est le but. Donc tout ce qu'on vit ici, ça a pas. On avait vu qu'il y a une récompense et une punition dans ce monde-ci, mais c'est pas la vraie récompense et la vraie punition qu'on mérite pour nos actions. C'est juste pour nous mettre sur le droit chemin. Mais quand une personne, elle commence à faire Shabbat, elle commence à faire les mitzvot et qu'elle en reçoit des épreuves, Elle reçoit des difficultés et des souffrances. C'est la preuve que ce monde-ci, ce n'est pas le monde final. Parce que si maintenant une personne, elle commence à faire la volonté d'Hachem, elle devrait être récompensée. Donc si elle n'est pas récompensée, ça veut dire que ce monde-ci, ce n'est pas le monde, enfin, ce n'est pas le but final. Et nous, on doit avoir la Emouna, que le Olam Haba, on doit avoir la Emouna dans le Olam Haba. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-ci qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il rapporte une histoire à ce sujet, une histoire extraordinaire, que vraiment, qui renforce énormément dans l'Emouna que tout est pour le bien. Il y avait un couple extraordinaire. Le mari, c'était un commerçant, mais c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de chesed. La femme était une femme très tsnoa et elle s'occupait des pauvres. Et c'était un couple qui était très apprécié parce que vraiment c'était des tzadikim. Et est arrivé un terrible malheur dans la communauté. Et dans quelle famille c'est arrivé? Dafka dans cette famille-là. Le fils le plus petit, qui avait peut-être 3 ans, je crois, il a été sauvagement tué par un ivrogne. Et donc, les gens, ils se sont étonnés. Ils ont dit quoi? Dans cette famille de tzadikim, l'enfant est tué sauvagement. Mais vraiment, une mort mita meshuna, une mort différente. Ça veut dire que vraiment, il a été vraiment roué de coups et il a beaucoup souffert. Les gens n'ont pas compris. Mais ce couple-là, il a pris avec Emouna cette épreuve et ils ont continué leur vie. Et peu de temps après, encore un autre malheur s'abat sur cette famille de tzadikim. C'est que le père devient très très malade jusqu'à ce que les médecins disent que ses jours sont comptés. Alors toute la communauté, elle prie pour lui. Et vraiment, comme ils l'aiment et comme ils sont attachés à lui, alors ils prient de tout leur cœur. Et le rav de la communauté, il dit, c'est impossible que cet homme, il va mourir. C'est sûr qu'il va vivre. Et le papa de cette famille meurt. Et Niftar. Et donc là, les gens disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi? Le rav de la ville, il a fait un décret et il est quand même mort. Et en plus, c'était un grand tzaddik. Et regardez toutes les tuyautes qu'on a fait avec Kavana. Comment c'est possible qu'il est mort? Qu'il est niftar? Et la mère, la femme de ce mari, de cet homme-là, elle n'arrive pas à se consoler. Jusqu'à ce que, 2 ans après le drame, un Shabbat soir, son fils aîné, qui maintenant s'était marié, vient la voir et lui souhaite Shabbat Shalom. Et elle commence à pleurer. Il lui dit, maman, tu dois arrêter de pleurer. La Torah, elle a donné une limite au deuil, qui est 12 mois. Maintenant, ça fait 2 ans que papa, il est niftar. Ça y est, on te propose un shidour, remarie-toi et arrête d'être triste. Et là, la femme, elle réfléchit sur les paroles de son fils et elle se dit, c'est vrai quand même. Bon, c'est vrai que le temps, il est passé. C'est vrai que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Et pourquoi je m'attriste? Baruch HaShem, elle commence à voir la vie avec le bon œil, elle commence à être Bessimra, elle commence à être joyeuse et ses enfants sont d'un coup tout réjouis parce que c'était très difficile de vivre avec une mère qui était complètement triste, déprimée et endeuillée. Et là, les enfants à se réjouir. Et la femme, après la soirée de Shabbat, elle va se coucher pour la première fois apaisée. Et elle s'endort et elle rêve qu'elle voit un endroit merveilleux et elle comprend qu'elle est dans le Olam HaEmet. Et là, elle voit une personne âgée qui lui dit, est-ce que tu veux voir ton mari? Elle dit avec plaisir. Et il lui montre une salle où il y a un jeune homme, un homme assez jeune, qui est en train d'enseigner la Torah à des tzadikim. Et elle reconnaît son mari. Et quand il a terminé sa dracha, elle va le voir, lui dit, mais je comprends pas, t'étais pas un Talmid Chacham dans ce monde-ci, t'étais un simple commerçant, tu étudiais la Torah, mais de façon très simple. Il dit effectivement, alors je vais t'expliquer. Moi, dans mon Gilgoul précédent, j'étais un très grand Talmid Chacham, mais je ne me suis pas mariée. Donc quand je suis arrivée dans le Olam HaEmet, on m'a dit, puisque tu t'es pas mariée, alors tu dois revenir dans ce monde-ci, te marier et accomplir la première mitzvah de la Torah, pour vous, multipliez-vous et fructifiez-vous et multipliez-vous. Et éduquez tes enfants. Et comme je suis arrivée à ma mission, comme je me suis mariée avec toi, j'ai eu des enfants, je les ai élevés. Et comme j'ai accompli ma mission, j'ai quitté ce monde. Elle lui dit, mais pourquoi pourquoi toutes les tefilotes que les gens de la ville ont faites, que le rav il a fait une xéra que tu vas pas mourir, elles n'ont pas marché. Il dit, si, ces tefilotes, elles ont marché parce qu'elles m'ont permis d'arriver dans un monde encore plus élevé. Et en plus, ces tefilotes, elles ont été utilisées pour Am Israël. Elle lui dit, notre fils, notre petit qui est mort d'une mort brutale comme ça, vraiment sauvage. Et j'écoute, notre fils, c'était une très très grande Neshama. C'était quelqu'un, c'était un grand tzaddik dans son Gilgoul précédent, mais les premières années de sa vie, il a été pris par une famille goy et il a bu du lait pas cachère. Et donc, quand il a voulu venir au Olam HaEmet, on lui a dit, c'est magnifique tout ce que tu as fait, mais c'est pas possible, tu as 3 années sur lesquelles tu as bu du lait qui n'était pas cachère, on ne peut pas t'accepter, il faut que tu reviennes dans un Gilgoul et que tu répares ces 3 années-là. Et donc, tu as été choisi, toi, pour allaiter cette Neshama Tehora. Une fois qu'il a réparé ce qu'il devait réparer, il devait mourir de toute façon. Il devait, au bout de 3 ans, il devait partir de ce monde. Et comme il y avait un mauvais décret sur les gens de la ville, comme c'était une très grande Neshama, il acceptait de prendre tout le mauvais décret sur lui. C'est pour ça qu'il a été tué sauvagement comme ça. Et donc la femme, il lui dit, voilà, mais toi, hein, tu n'as pas terminé ta mission sur Terre. Tu dois encore avoir des enfants. Donc remarie-toi avec la personne qu'on t'a proposée et tu vas amener encore des enfants au monde et élève nos enfants. Et voilà. Et donc cette histoire-là, elle nous montre combien chaque chose qui nous paraît mais vraiment catastrophique en réalité, derrière ça, il y avait une très très bonne raison.
Pour recevoir les cours Joie de vivre femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.